Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, le spina bifida. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Klein. Professeur Klein, bonjour.
Bonjour à tous.
Professeur Klein, vous êtes neurochirurgien, professeur de neurochirurgie et chef du service de neurochirurgie et chirurgie de la face pédiatrique du CHRU de Nancy. Et vous êtes également responsable du centre de compétences Chiari et malformations vertébrales et médulaires rares, le CMAVEM, de Nancy également. Alors, professeur Klein, nous évoquons aujourd'hui le spina bifida. Et ma première question est très simple. Qu'est-ce qu'un spina bifida?
Alors, un spina bifida, en fait, c'est un terme générique, c'est une grande famille. Le spina bifida regroupe en fait de très nombreuses malformations, malformations de la colonne vertébrale, voire de la moelle épinière et des nerfs. Et parmi ces malformations, eh bien, il y a des malformations tout à fait bénignes et d'autres beaucoup plus graves.
Et quels sont les différents types de spina bifida myélo-méningocèle?
La forme la plus grave, celle que l'on appelle par abus de langage, en fait, spina bifida, s'appelle myélo-méningocèle. C'est une anomalie majeure de fermeture du tube neural. Elle est souvent située en région lombaire ou lombo-sacrée et elle associe un défect de l'os, un défect musculaire, de la méninge, mais aussi de la peau, avec un écoulement de liquide céphalo-rachidien. La moelle est située très bas, trop basse. Elle est dysplasique, c'est-à-dire qu'elle est non fonctionnelle ou peu fonctionnelle à son extrémité, de même que les nerfs qui en sont issus. Alors, ces enfants peuvent souffrir d'une paralysie des jambes, de troubles sphinctériens. Ils doivent se sonder plusieurs fois par jour, 4 à 6 fois par jour. Ils doivent pratiquer 1 ou 2 grands lavements par semaine. Ils souffrent d'hydrocéphalie, ce qui peut nécessiter la pose d'une dérivation, donc une autre intervention chirurgicale, mais aussi de scoliose, de douleurs et de problèmes urinaires tels que lithiase, infection et également des anomalies des membres qui peuvent nécessiter des interventions chirurgicales orthopédiques.
Et concernant les autres anomalies de fermeture du tube neural, quelles formes peut-on distinguer?
Alors, il y a des formes très mineures et des formes beaucoup plus graves, sans avoir la gravité toutefois de la myélo-méningocèle, hein, qui est malheureusement la plus fréquente, mais aussi la plus grave. Et cela peut aller de la simple découverte d'une vertèbre qui est mal fermée sur une radiographie standard, et là, il n'y a aucune conséquence, jusqu'à des lésions de type lipome, c'est-à-dire de la graisse, ces lésions qui peuvent pénétrer dans le canal vertébral, maintenir la moelle en position basse et la faire souffrir. La moelle peut aussi, en elle-même, présenter une malformation et être moins fonctionnelle à son extrémité.
Et concernant les autres anomalies de fermeture du tube neural, quelles formes peut-on distinguer?
Alors, il y a beaucoup d'autres formes, comme celles qu'on appelle, par exemple, les LDM.
Et quelles sont les conséquences pour les patients en fonction de ces différents types?
Alors, en principe, ces formes ne se compliquent pas d'hydrocéphalie. Elles permettent souvent aux enfants de marcher, mais parfois, il est vrai, avec des déficits neurologiques.
Et finalement, quelle est l'origine d'un spina bifida?
Elle est multifactorielle et tout n'est pas encore connu. Il existe vraisemblablement des mécanismes épigénétiques. Ce que l'on sait, par contre, c'est que l'antécédent personnel ou familial augmente le risque relatif d'un facteur 10. On sait également que la carence en acide folique ou l'absence d'une enzyme chez la femme qui permet de transformer l'acide folique est associée à un risque majeur. Les autres facteurs de risque, pour l'essentiel, sont le diabète maternel, la prise de certains antiépileptiques, valproate de sodium et carbamazépine, par exemple.
Et comment dépister un spina bifida le plus tôt possible?
Alors, c'est l'échographie de dépistage qui permet ce diagnostic. Cet examen va montrer la malformation ou des signes indirects, c'est-à-dire malformation de Chiari de type 2, pied bot, anomalie de la forme des os frontaux. Le dépistage en France est quelque chose de sûr et les échographistes sont bien sensibilisés à cette malformation.
Et pour conclure, professeur Klein, en termes de prise en charge, quel est à votre sens le point le plus important?
La multidisciplinarité. La multidisciplinarité qui, seule, permet d'offrir à ses enfants et à leurs familles toute l'étendue des soins et des explorations dont ils ont besoin. Neurochirurgiens, chirurgiens viscéraux, orthopédistes, médecins rééducateurs, etc.
Eh bien, merci mille fois, professeur Klein, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le spina bifida. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.